Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Nous allons parler aujourd'hui du modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère avec M. Matete Osako-Eri Jean-Joseph, docteur en sciences économiques de l'université de Kisangani. Monsieur Matete Osako, bonjour. Voilà, on va les retrouver dans les minutes qui suivent. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, composez déjà le 085 42 11 547. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Emploi, comment bien préparer son dossier de candidature? Monsieur Alain Poutou, expert en ressources humaines, sera avec nous pour nous en dire un peu plus à partir des 11h05 heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission de la vie au quotidien, le standard est ouvert. Faites le 085 42 11 547. Écrivez-nous à service@radiocapi.net et laissez votre commentaire sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Esther Mamboté assure les lives sur les plateformes digitales des radios Okapi. Alain Goy à la mise en onde. Benjamin Moudoumbi coordonne et réalise cette émission au micro. Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Bien, encore une fois, bienvenue dans votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. La RDC dispose de l'un des plus grands potentiels agricoles au monde avec environ 120 millions de terres arables. Par ailleurs, son sous-sol est qualifié de scandale géologique en raison de ses richesses minières immenses. Cependant, le pays fait face depuis plusieurs années à des désastres socio-économiques récurrents. Selon certains experts, l'État au Congo n'a jamais préparé sa population à gérer l'abondance propice et avérée de ces terres. Or, l'abondance appelle à plus de responsabilités. Selon les experts, le Congo a été pendant longtemps stratégiquement vaincu à travers son éducation, sa sécurité et sa prospérité. Conséquence, près de 85% de sa population vit dans la pauvreté extrême, avec moins de $2 par jour, d'après les statistiques de la Banque mondiale. Les ressources considérables du pays ne profitent pas à la population paupérisée à cause des conflits armés, la corruption, les manques d'infrastructures de base qui affectent l'éducation et la santé. Alors, quel type de gouvernance mettre en place, de gouvernance socio-économique à mettre en place pour sortir le pays de cette situation? On en parle aujourd'hui avec M. Matete Osako-Eri Jean-Joseph, doctorant en sciences économiques de l'université de Kisangani. Des questions et préoccupations, composez déjà le 085 42 11 547. Monsieur Matete Osako, bonjour. Je rappelle que vous êtes doctorant en sciences économiques de l'université de Kisangani. Nous parlons aujourd'hui du modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère. Vous avez d'ailleurs fait une étude là-dessus en affirmant que le Congo est un pays qui a, voilà, ses terres regorgent de beaucoup de richesses, etc. Mais il y a un problème au niveau de la gouvernance socio-économique. Et vous parlez même de la malédiction. Qu'est-ce que vous entendez par abondance et par malédiction?
Oui, mais c'est exactement ce que vous venez de synthétiser là. Pratiquement, en fait, en réalité, la première leçon qu'on a, c'est que gérer l'abondance est une malédiction pour ceux qui n'ont pas été préparés et ne posent pas d'un modèle économique idoine des gestions socio-économiques. Mais cette abondance, c'est quoi? Mais lorsque vous considérez la situation du Congo, vous vous rendez compte que le Congo dispose de ressources et a connu des opportunités illimitées. Mais ces ressources et opportunités illimitées n'ont pas débouché, n'est-ce pas, sur les attentes de la population. Mais pourquoi? Parce que la malédiction, ça a été que l'État présente des capacités limitées pour réaliser ces ressources, opportunités qui sont illimitées.
Voilà, un exemple, est-ce que vous avez-vous des exemples concrets pour soutenir ce que vous affirmez?
Mais très simple, oui, effectivement. Mais je prends, parce qu'en fait, l'étude a commencé de 1800 depuis l'économie léopoldienne jusqu'en 2018, la fin d'un régime étatique complet. Alors, mais remarquez, considérez, nous sommes dans l'économie léopoldienne. Les premières exploitations de l'économie léopoldienne, c'est les caoutchoucs et l'ivoire que le Congo, dont le Congo disposait en grande abondance. Mais le Congo n'a jamais organisé un marché des caoutchoucs ni de l'ivoire. Le Congo n'a jamais produit un pneu. Un pneu avec une conception congolaise, bien entendu. Nous prenons l'exemple, mais arrivons vers la création, les années 1906, et presque à la veille du Congo belge, parce que le 23 novembre 1908, c'est l'avènement, effectivement, c'est la remise du Congo, l'État indépendant du Congo au Congo belge, à la Belgique. Mais c'est là, juste après 1908, il y a les sociétés de dites de 1908 qui sont constituées. Les grandes sociétés où l'exploitation, avec déjà les débuts de l'exploitation minière. Nous, ce que nous avons fait, nous avons produit du cuivre, nous avons produit de l'or, qui le monte à ces moments, c'est presque à ces moments-là, nous avons l'union minière du Haut-Katanga, à ces moments-là, qui déjà était sous le fonds baptismaux, mais on a produit. Est-ce que nous avons produit les produits finis du cuivre, de l'or, sinon que nous ne faisions que exporter du brut?
Allô? Allô? Monsieur Matete, vous êtes là? Ben, il y a un souci au niveau de la liaison téléphonique, on l'a perdu. On va encore tenter de le joindre de nouveau pour intervenir dans cette émission Capi Service qui s'intéresse aujourd'hui au modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère. Voilà, notre invité nous disait tout à l'heure que l'abondance du Congo, il qualifie cela d'une malédiction parce que le pays a eu plusieurs opportunités. Voilà, il a parlé par exemple du caoutchouc qu'on produisait, de l'ivoire, mais on n'est jamais arrivé à fabriquer des pneus localement ici, voilà. Voilà, et on va relancer notre invité tout à l'heure. Vous avez des questions et préoccupations déjà par rapport à ce thème, faites le 085 42 11 547, 085 42 11 547, écrivez-nous à service@radiocapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Nous tentons de relancer notre invité, on l'aura certainement dans quelques instants.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le Bouquet Canal Plus, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, quel modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère, Monsieur Matete Osako? Éric Joseph, doctorant en sciences économiques de l'Université de Kisangani, est notre invité. Monsieur Matete, vous êtes là? Allô?
Voilà quelques exemples par rapport à...
Allô, est-ce que là on vous entend pas très bien? Est-ce possible de désactiver la main libre pour nous permettre de bien vous entendre?
Parce que l'État n'avait pas de capacité.
Allô?
Pour arriver à Rome.
Allô, Monsieur Matete? Allô? Oui, là, on vous entend pas très bien. Est-ce c'est possible de désactiver la main libre pour nous permettre de bien vous capter? En tout cas, là, vous n'êtes pas très... non, on vous entend pas très bien, là.
Allô? Est-ce qu'on se comprend?
Oui, maintenant, vous c'est bon. Oui, maintenant, ça va, c'est parfait maintenant, allez-y.
Oui. Ah, je disais que j'en étais à donner des exemples concrets.
Oui.
Oui, j'en étais à Paris, je ne sais pas si vous avez suivi, je disais que en 1945, avec l'uranium des Sinkolobe et du Congo, il y a une puissance mondiale qui a accédé à un statut de puissance atomique et qui a bouleversé la géostratégie mondiale à partir de ce que le Congo a. Et ça, c'est à partir de quoi? Des négociations, n'est-ce pas, sur l'uranium du Congo avec Paul-Henri Spaak et tous les autres de la Belgique, avec les États-Unis. Mais il y a aussi aujourd'hui, nous avons effectivement, nous citons des choses, pyrochlore, etc., lithium de Manono, etc. Mais nous avons aujourd'hui une économie qui regarde que les ressources. Mais on a oublié que l'économie aussi, ce sont les opportunités, qu'il faut arriver à rentabiliser ces opportunités-là. Et c'est ainsi que je donnais l'exemple tout à l'heure de ces accords stratégiques entre le Congo et les États-Unis. Mais ça, c'est un saut qualitatif de la gouvernance par rapport aux grandes négociations que le Congo auxquelles le Congo a accédé. Mais est-ce qu'à l'interne, y a-t-il un plan qui puisse arriver effectivement à soutenir un modèle, voudrais-je dire, un cadre socio-économique? Il n'y en a pas. Parce que pour que vous puissiez avoir une réponse à des défis stratégiques et à des défis de la complexité, il faut avoir un modèle stratégique. On va pouvoir y arriver.
Oui. Et vous
en
avez...
plus en détail. Mais ça, c'est une entrée en matière.
D'accord. Alors, vous avez aussi parlé d'une impréparation. Le Congo n'est pas préparé. Alors, comment s'est présentée l'impréparation du Congo et du Congolais par rapport à la gestion de l'abondance de toutes ces richesses?
Vous savez, Monsieur Kassama, ce que vous venez de poser comme question, c'est la grande question. Lorsqu'une nation s'attaque à une autre, elle s'attaque à l'homme dans ses différentes dimensions. Et ce qu'on a connu, c'est une attaque méthodique contre l'homme congolais, à travers ses différentes dimensions. L'esprit, l'âme, le corps et les interactions entre l'esprit, l'âme et les corps. Mais quand nous parlons de l'esprit, nous parlons de l'éducation, de la connaissance. Quand nous parlons du corps, nous parlons de la sécurité, c'est-à-dire de la cohésion nationale et régionale. Quand nous parlons du corps, c'est de l'entrepreneuriat, et donc la prospérité, la coopération, l'interaction duale. Mais qu'est-ce à dire? L'éducation que nous avons reçue, l'impréparation. Cette impréparation, lorsque vous regardez tout au long de l'histoire éducative du Congo, mais tout a été fait dans les systèmes éducatifs ont été construits pour faire en sorte que le Congo puisse assez préparer pour faire sortir, n'est-ce pas, ces richesses à l'extérieur, pour les intérêts qui sont externes. Mais lorsque vous avez les ministres élus Franck vers les années 1924, nous avions eu au Congo le système éducatif primaire les plus performants de l'Afrique noire, mais qui était orienté vers quoi? Vers la production, n'est-ce pas, des manœuvres de bas niveau, donc des ouvriers. On nous a appris effectivement ce que dans la tête, en nous disant que l'ouvrier travaille dans la société ou la mine, celui qui est celui qui est bureaucrate et travaille, n'est-ce pas, dans une société, et c'est qu'on a fait, chacun est dans son coin. C'est-à-dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que ce que nous on connaissait, c'est que the together made men, c'est-à-dire que les uns, un pour tous et tous pour un. On nous a divisés dans cette éducation-là. Mais comment est-ce qu'on a commencé à diviser? Ah bon, d'abord, lorsque on vous dit, et ça c'est l'étude au niveau de la complexité. La complexité, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut, pour arriver à comprendre la complexité, arriver à rentabiliser les systèmes économiques, à le rendre efficace, il faut d'abord produire des structures. C'est ainsi que le peuple qui était éparpillé, il y avait des grandes nations effectivement qui étaient en grande, des grands royaumes et des grands empires, Luba, Congo, etc., Zande, etc. Mais ce qu'on a fait, on a pris une autre structuration. Les Congos, les Luba, les Baswahili et les Baswahili et les Bantu.
Tout ça, ça c'était bien donné. Pourquoi? Pour arriver à atteindre la cohésion. Pourquoi? Parce que celui-ci se retrouve comme Moulouba, celui-ci se retrouve comme Mungala, celui-là se retrouve comme étant Mouswahili, celui-là se retrouve comme Mungala, Mukongo. Et là, il n'y a plus de cohésion. Et lorsqu'il n'y a plus de cohésion, chacun dans son coin recherche son intérêt. On oublie le Congo. On a oublié le Congo. Mais qu'est-ce qu'on a fait au niveau de cette sécurité? C'est ça qu'on arrive déjà à la sécurité. À ce niveau-là, lorsqu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas effectivement de sécurité. Ibn Khaldoun lui-même disait, n'est-ce pas, dans le prolégomène, il disait que lorsqu'il n'y a pas un esprit de corps, on ne peut pas arriver à la souveraineté. Et c'est ainsi qu'on revient encore, on en arrive en disant, mais alors, ça a débouché comment sur la prospérité, cette impréparation-là? Mais regardez, lorsqu'à chaque fois, il y a eu des entreprises, des petites entreprises ou des initiatives entrepreneuriales des Congolais, on n'a pas voulu qu'il y ait une élite entrepreneuriale du Congo. C'est ainsi qu'il y a eu, n'est-ce pas, ces leitmotifs, pas d'élite, pas d'ennui.
Alors, monsieur Matete, monsieur Matete, vous parlez de l'impréparation. Qui devait nous préparer? Est-ce que ce sont les colonisateurs ou quelqu'un d'autre?
Oui, mais ce qui devait nous préparer, c'est d'abord ces colonisateurs et nous-mêmes prendre conscience. Nous-mêmes aussi prendre conscience. Nous ne pouvons pas toujours parler du colonisateur. C'est vrai que pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place un système, un dispositif stratégique, ce qu'on appelait la trinité coloniale. La trinité coloniale qui était composée, n'est-ce pas, de l'Église, l'administration coloniale ou l'État colonial, ainsi que les sociétés commerciales. Ils travaillaient ensemble. Les prêtres étaient au confessionnal pour écouter tout ce que venait dire en confession le Congolais. Et ceux qui étaient venus du confessionnal, le soir quand ils se retrouvaient, l'administrateur du territoire était avec les prêtres, et le soir aussi était avec l'administrateur de la société congolaise et de la société commerciale. Et à ce moment, ils savaient à tout moment que pensait le peuple, de quelle manière qu'ils pouvaient arriver à orienter leur action pour arriver à rentabiliser l'exploitation du Congo au profit de la Belgique ainsi que de ses partenaires qui sont les plus grands, n'est-ce pas? Quand vous voyez aujourd'hui, les partenaires de la Belgique dans cette exploitation coloniale, c'est les noyaux de ce qu'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, la communauté internationale, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Et c'est ainsi que nous n'avons pas pris conscience de cela. Et peut-être que même aujourd'hui, on n'en a pas encore véritablement conscience. On commence à avoir certaines fulgurances de cette prise de conscience. Et c'est ainsi que, lorsque je prends l'exemple simplement de cette prise en conscience entrepreneuriale, est-ce que vous savez que l'autorisation d'exercer, n'est-ce pas, de commerce, comment on appelait encore ça, l'autorisation pour faire les commerces, le registre des commerces.
Oui.
L'autorisation pour un Congolais d'être inscrit au registre des commerces. Mais ça n'a, tout au long de la période coloniale, a été refusé aux Congolais jusqu'en 1954, presque au crépuscule, n'est-ce pas, de la colonisation. Et il y a des prêtres comme le père Exthoven, qui ont les fermes chapelles, le truc de au niveau du Congo central. Mais l'État colonial a pu, l'administration coloniale a pu arriver à faire une guerre contre ce genre d'initiatives. Et donc, effectivement, on ne nous a pas préparé pour, et aujourd'hui vous dites, mais comment les Congolais ne s'est pas arrivé à avoir? Nous n'avons pas des banques congolaises, nous n'avons pas ceci, etc. On a eu à un certain moment la Banque congolaise du Crédit Agricole, mais qui n'a pas fait long feu. Donc voilà un peu cette impréparation. Et même aujourd'hui, lorsqu'on est arrivé à l'indépendance, il y a une autre trinité post-indépendance, post-coloniale, n'est-ce pas, qui est arrivée. Et on a répété les mêmes erreurs parce que c'était nous, on n'a pas été préparés effectivement. Ceux qui étaient les pères de l'indépendance n'avaient que les niveaux primaires ou étaient ceux qui étaient au niveau de séminaires, des séminaires des églises catholiques.
Donc, bien. Voilà. D'accord. On va accueillir les auditeurs. Quel modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère? Blaise Atoubou, vous êtes à Kisangani, Platini Mbombo, en Mbandaka. Blaise Atoubou, bonjour. Merci d'ouvrir vos micros.
Bonjour, c'est Jody.
Bonjour, Blaise. On vous écoute.
Merci beaucoup. Je vais donner d'abord une contribution. Oui. Je salue d'abord l'invité. Je vais donner une contribution. Je dois citer par quelques deux, trois questions.
Ok.
Voilà. Je dis, le véritable défi de la RDC n'est pas le manque de richesses, mais le manque de discipline dans la gestion et d'engagement réel envers le développement. Tant que les décisions ne seront pas prises dans l'intérêt du peuple et tournées vers la production nationale, le pays continuera à stagner malgré ses atouts. La première question, cher Jody, à l'invité.
Oui.
La RDC a-t-elle réellement une vision économique claire pour sortir durablement la pauvreté? Si oui, laquelle? Deuxième question. Quelles réformes concrètes faut-il engager pour rendre l'État réellement efficace et productif? Pour chuter pour cette série de questions, faut-il prioriser l'agriculture avant les mines pour relancer l'économie nationale? Je me limite à ce niveau-là, cher Jody.
Bien, merci beaucoup, Blaise. Pardon pour toutes ces questions. Platini Mbombo depuis Mbandaka, bonjour.
Bonjour, Jody. Je salue l'invité.
On vous écoute.
Voilà, merci beaucoup, Jody. Je salue la thématique. C'est très intéressant. C'est aussi vraiment important. J'ai suivi l'invité comme tout ça qu'il a dit. C'est aussi important. Je suis dans la province où il y a vraiment la domination agricole, la vocation agricole. Et quand vous avez lancé la thématique, c'est comment la RDC peut s'élever au niveau de l'agriculture. Mais moi, je vais vous donner quelques détails parce que si réellement on respecte les procédures, je pense que nous avons tout le service technique, le ministère de l'Agriculture, le secrétaire général, il y a aussi ce qu'on appelle la division provinciale de l'agriculture. Mais le gouvernement, quand on ne s'occupe même pas à ça, pour qu'ils même font les travaux sur le terrain. Moi, je le pose la question directement à l'invité qui est avec vous au studio, c'est lui le technicien amateur. Est-ce que pour s'en sortir dans la crise, ce que vous avez dit aujourd'hui, l'agriculture a une baisse totale, à Mbandaka, à l'Équateur, ça ne fonctionne pas trop bien parce que le gouvernement humain ne s'occupe pas. Maintenant, est-ce que l'invité peut nous dire quelle méthode, quelle politique que le gouvernement congolais peut mettre en place pour sortir de cette crise? Voilà un peu ce que je voudrais voir le classement sur l'invité autour de vous.
Bien, merci beaucoup Blaise, Platini Mbombo depuis Mbandaka. Quel modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère? Monsieur Matete, vous avez la parole. Il y a notre ami Blaise Atoubou de Kisangani qui veut savoir quelle vision claire pour sortir le Congo de cette situation de pauvreté. Quelles sont les réformes à mener au niveau de l'État et puis entre l'agriculture et les mines, quelle est la priorité? Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Kassaba. Je remercie Monsieur Blaise de Kisangani. Mais la RDC a-t-elle une vision économique pour son pays? Mais je crois qu'à cette question-là, c'est une question très importante, c'est par là qu'il faut commencer d'ailleurs, c'est que lorsque vous avez tous ceux qui ont réfléchi sur la question, je prends ici Erderche Moukoko Samba et Moïse Tshimengati Tshibangu, et en passant par déjà Mabika Kalanda, la décolonisation mentale, il y a aussi Modeste Mbonigaba, ils ont dit que nous n'avons pas la vision et notre recherche a montré qu'effectivement le Congo a un problème de cadre de gouvernance socio-économique. Le Congo n'a pas encore un modèle économique à lui bâti sur effectivement l'histoire et les réalités, n'est-ce pas, de son territoire, de sa population, de son vécu expérientiel historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous prenez un modèle, je prends un modèle, hein, je prends l'exemple de ce que nous vivons. Partout on nous dit, n'est-ce pas, les modèles de rareté, les modèles de pauvreté. On nous dit non, écoutez, vous allez faire, n'est-ce pas, les documents pour la réduction de documents stratégiques pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Mais nous n'avons pas de pauvreté. Nous avons, effectivement, on veut nous mettre dans la tête que nous sommes dans la pauvreté. Or, la réalité du Congo est une réalité d'abondance. Mais nous n'avons pas encore un modèle d'abondance, d'orientation économique de l'État qui gère l'abondance du Congo. Et là, ça c'est une première réponse de cela. Et d'ailleurs, oui, est-ce que je soulignais là, en disant qu'effectivement, lorsque vous prenez les modèles des autres, vous mettez en situation de danger. L'économie a été démontrée que les lois économiques ne sont pas universelles. Mais la preuve, je vous donne un exemple, M. Kachama, et ça c'est M. Blaise de Kisangani, vous donne un exemple. La première loi que nous étudions en économie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Lorsque vous prenez la microéconomie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Mais regardez ce qui s'est passé au Congo. Le Congo a des minerais stratégiques. Mais en 1996, déjà, et on peut parler des 94, on crée les génocides au Rwanda pour qu'on puisse rentrer au Congo. Pourquoi il y a les génocides au Rwanda, on crée les génocides au Congo pour arriver à accéder aux minerais. Or, on nous a enseigné que l'offre et la demande se rencontrent lorsque, par les mécanismes des prix, mais maintenant ce n'est plus les mécanismes des prix, mais c'est les mécanismes de génocide pour accéder aux minerais du Congo. Donc vous voyez que c'est cette guerre économique. Et il faut que nous puissions, parce que je crois que c'est la question déjà qui disait, il faut que nous puissions construire un autre modèle. C'est ce que le modèle que nous étions en train d'y parler, mais la question arrive déjà avant. Il faut construire un modèle, une économie stratégique au Congo. Cette économie stratégique qui se base sur l'intelligence économique. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en situation de complexité, c'est une situation d'abondance, où vous avez des ressources qui sont nombreuses, abondantes. Mais les capacités pour réaliser ces ressources, pour qu'elles deviennent utiles à la population et à la communauté tout entière, les capacités de l'État ne sont pas là. Comment construire cette capacité? Il faut alors construire un modèle, n'est-ce pas, de l'État intelligent. Et d'ailleurs, par une...
qu'est-ce que vous entendez par État intelligent?
L'État intelligent, ça veut dire que c'est cet État qui utilise l'intelligence économique, c'est-à-dire quand nous parlons de cette intelligence économique, elle est articulée autour des quatre intelligences. L'intelligence cognitive pour l'éducation, l'intelligence cohésive pour la sécurité, l'intelligence entrepreneuriale pour la prospérité et une intelligence interactionnelle pour la coopération. Ça veut dire que lorsque on nous a appris, il y a eu des modèles théoriques et conceptuels qui nous ont été donnés, qui ont été appliqués ici, mais la limite qu'ils avaient présentée, c'est que c'était le modèle de one shot theory, c'est-à-dire que une cause, une conséquence et une solution. Mais maintenant, il faut que nous passions par-delà cela. Il faut qu'aujourd'hui, on arrive à dire, quand nous avons par quel, et ça c'est la question déjà de M. Blaise, qui disait, mais quelles réformes nous pouvons arriver à faire? Et M. Platini qui disait, comment s'en sortir? Quelle politique publique arriver à faire? Mais il faut des politiques publiques qui correspondent à l'homme congolais, à la finalité. Quand on a la stratégie, il faut définir la finalité, les moyens, ainsi les voies et moyens. La finalité doit être l'épanouissement de la population congolaise. Vous rendez compte qu'à un certain moment, on nous a dit non, il ne faut pas donner de salaire aux gens parce que cela peut pouvoir arriver à faire chuter la rentabilité. Mais la rentabilité n'arrive toujours, ne débouche pas surtout sur l'épanouissement. Mais les pays, lorsque vous êtes à un niveau de développement, je ne voudrais pas tellement parler, à un niveau de développement encore des bases, mais les gens ont besoin des salaires pour qu'ils achètent sur les marchés internes. Ils n'accèdent pas au marché extérieur.
Alors, Monsieur Matete, à vous entendre, je comprends par là que pour sortir de cette situation de pauvreté, etc., il faut travailler sur quatre piliers, sur l'éducation, la sécurité, la prospérité et la coopération. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, effectivement. Et là, à ce moment-là, lorsque vous travaillez sur l'éducation d'abord. Mais vous touchez l'esprit du Congolais. Parce qu'il faut une décolonisation mentale. On nous a toujours appris des choses qui ne sont pas des réalités du Congo. On nous parle de l'économie comme science de la rareté. Il nous faut aujourd'hui bâtir l'économie comme science de l'abondance au Congo. On nous parle effectivement en disant, ça veut dire qu'il faut qu'on construise maintenant une économie, un modèle qui part non pas seulement des secteurs, on nous a parlé des secteurs tout à l'heure, c'était important, mais il faut qu'on puisse arriver à construire des écosystèmes. Les écosystèmes cognitifs. Et des écosystèmes cognitifs qui sont fondés besoin des Congolais, besoin des connaissances des Congolais. Est-ce que les Congolais ont besoin de voir que les Madés sont cognitifs au Kivu et au Madès qu'on cultive en Ituri, ces Madès-là doivent être, n'est-ce pas, quel type de Madès? Et si vous avez le système, ce que le Congolais, dont le Congolais a besoin aujourd'hui, c'est de savoir aussi, attention, mais lorsqu'on nous attaque, quelle est la réponse qu'on doit pouvoir donner? Si les armes, c'est encore pour acheter à l'extérieur, est-ce que nos systèmes coutumiers peuvent-ils donner des réponses à cela? Ou si on nous attaque avec les armes, oui, c'est lui qui tire les armes s'échangent en eau. Ou s'il nous attaque, nous sommes ceux-là qui pouvons donner une réponse pour dire les abeilles les attaquent. Ou s'ils viennent, et c'est ça aussi que nous devons pouvoir arriver sur le plan, là c'est sur le plan de l'esprit, les systèmes éducatifs. Les systèmes cohésifs. Arriver à dire que il faut que le Congolais se dise que on lui a pendant longtemps fériné le fait qu'il doit pouvoir chercher ses propres intérêts. Mais la preuve aujourd'hui, nous sommes dans ces désastres dans lesquels nous sommes. Il faut qu'on arrive à dire, rappelez-vous, nous parlions l'autre fois, lorsque les responsables arrivent à des postes de responsabilité, oui, est-ce qu'il y a eu, n'est-ce pas, il y a eu des dispositifs stratégiques pour arriver à les préparer pour dire que vous, messieurs, aujourd'hui vous rentrez comme ministre, DG, etc., ceci, attention, voilà ce que vous devez avoir comme attitude, comme vous devez pouvoir la marche à suivre.
Monsieur Matete, à l'époque, il y avait l'Institut Makanda Kabobi, à l'époque du président Mobutu. Est-ce que ce genre d'école n'existe plus?
Non, mais ces genres de cols n'existent plus. C'est vrai. Il faut que nous puissions arriver à dire, à préparer tous ceux qui doivent arriver à des postes de responsabilité. Et ça, c'est la partie, donc les dispositifs entre les espaces cognitifs, les écosystèmes cognitifs et les écosystèmes cohésifs ou sécuritaires. Il faut qu'on arrive à voir ça. Et lorsque vous voyez ces genres d'expériences, il faut qu'on arrive à les multiplier aujourd'hui aussi. Mais quelle réforme que nous pouvons arriver à dire, et c'est ce que M. Blaise de Kisangani, quelles sont les politiques publiques que nous devons pouvoir, ça c'est M. Platini, quelles sont les politiques publiques? Lorsque nous regardons ce que nous avions, il faut d'abord définir les piliers stratégiques. Les piliers stratégiques, savoir effectivement que si nous avons des politiques publiques, ça va s'orienter vers quelle cible? L'individu, la famille, l'État et la société. Et ça a été déjà décrit en son temps par Adam Smith, déjà en 1876, etc. Mais aussi, quelles sont les dimensions? C'est là aussi les structures. quelles sont les structures de l'économie. Il faut que nous ayons ces écosystèmes.
Monsieur Matete, sur le plan sécuritaire, il y a eu des propositions, je me souviens bien, certaines personnes avaient proposé la formation militaire obligatoire pour chaque enfant qui termine l'école secondaire, comme ça s'est fait ailleurs dans d'autres pays. Quelle est votre idée par rapport à cette proposition-là?
Non, mais je crois qu'effectivement, c'est l'une des voies par lesquels nous devons passer. Et moi je félicite cette proposition-là. Et il faut que nous puissions arriver à responsabiliser chaque Congolais pour dire que le Congo, c'est son affaire à lui, chacun, personnellement, individuellement. De telle manière que cette sécurisation sur le plan de l'éducation sécuritaire, nous devons pouvoir arriver à nous construire en 10 ans. Mais pourquoi est-ce que nous, on nous dit que nous sommes faibles? Nous sommes faibles parce que nous ne nous engageons pas chacun individuellement, c'est-à-dire, moi je dois mourir pour le Congo. Je vous donne un exemple, monsieur Nkashama. Regardez, il y a un chef coutumier qui a été à l'Est. Il a dit, vous allez travailler pour l'ennemi et on vous laisse chef coutumier. Il a dit, non monsieur, non merci. Pour la proposition, c'est que je fais, moi je reste fidèle à mon Congo, n'est-ce pas, à mon Congo de telle manière que on l'a tué lui avec son enfant, n'est-ce pas, avec ses enfants, mais il a accepté d'être tué pour qu'effectivement il ne puisse pas arriver à être la voie par laquelle l'ennemi entre. Mais il y a aussi ce que vous disiez là, il y a aussi sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous savez que lorsque vous prenez les modèles économiques, n'est-ce pas, des autres nations et d'autres qui ont construit, vous vous mettez aussi en insécurité. Parce que lorsque vous formez vos enfants à ces modèles économiques-là, vous les formez comme étant à un certain moment des rebelles ou de ceux qui vont contribuer demain, n'est-ce pas, à pouvoir arriver à détruire votre pays. C'est pour ça qu'il faut avoir des bons modèles qui sont construits, des bons modèles économiques qui sont construits sur base de vos réalités. Et là, je voudrais ici dire, lorsque le professeur Banyakouloapé, il y avait un colloque sur en 1991, il disait, il faut que nous ayons une réactualisation des alliances entre l'université et les pouvoirs organisés, les gouvernements, et ainsi que le niveau entrepreneurial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on arrive à mettre en place, effectivement, et c'est ce que nous avons proposé, un modèle qui se base sur le plan, qui se base sur l'intelligence économique. Et d'ailleurs, regardez, l'une de vos émissions, je crois que c'était Dialogue entre Congolais, oui, où le professeur Moïse Latilembe disait, il nous faut un État savant. Et là, c'était une intuition, n'est-ce pas, une intuition stratégique qu'il avait, un État savant. Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui, au niveau des pouvoirs organisés, on puisse donner les moyens au niveau des universités pour que ces universités, en retour, lui montrent quelles sont les voies et les moyens. Mais les voies aujourd'hui, regardez, quand nous avons parlé de ça, vous avez très bien souligné ça, M. Nkashama, nous avons les voies, les infrastructures, les écosystèmes cognitifs, les écosystèmes cohésifs, les écosystèmes entrepreneuriaux et les écosystèmes interactionnels. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a voulu nous faire croire que c'est seulement l'argent qui amène à la croissance, mais qui amène, n'est-ce pas, à l'émergence. Non que ça. Regardez, l'argent, la monnaie, n'est qu'un moyen. Mais un moyen, s'il n'est pas utilisé dans des voies idoines, ces moyens risquent de devenir nocifs.
Bien, monsieur Matete, un instant, on va accueillir les auditeurs et je reviens à vous tout à l'heure. Quel modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Robert Adjokou, Edji Hydra, vous êtes à Bounia. Martin Wassomba, à Kindu. Robert Adjokou, bonjour.
Robert Adjokou, Edji Hydra, vous êtes à Bounia.
Bonjour Robert. Allô Robert, bonjour.
Vous me suivez, je suis à l'écoute.
Oui, Robert Adjokou et Djidra, on vous écoute.
Allô. Allô.
Oui, oui, allez-y, on vous écoute.
Allô. Allô.
Oh là, je pense qu'il a, il a un souci.
Allô.
Oui, on vous écoute très bien.
Allô.
Désolé, on va prendre Martin Wasiomba depuis Wikindou. Bonjour Martin. Monsieur Wasiomba, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Allez-y, Martin. Allô, Martin? Allô?
Oui, c'est Martin Wasiomba, depuis qu'il nous reçoit, ingénieur.
Allô? Oui, on vous écoute, oui, moi, monsieur Wasiomba.
Oui, ma préoccupation est... Notre pays ici, ce que nous devions faire auparavant, c'est municipaliser dans l'agriculture. Pour moi, c'est ce que je pense, c'est vraiment ça.
Alors, d'après vous, il faut plus investir dans l'agriculture pour développer les pays, c'est ça?
Oui, oui, oui.
D'accord, merci beaucoup.
C'est tout.
Oui.
Il fallait que... Pardon.
Allez-y.
Les autorités aussi doivent... Et en plus de ça, la discipline de la population.
D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Adjokou, vous êtes là? Bien, il n'est plus là. Monsieur Matete, vous avez suivi, il y a déjà deux auditeurs qui reviennent sur l'agriculture. D'après eux, il faut plus se mettre l'accent, investir... dans les secteurs agricoles pour voir le pays se développer. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Allô, monsieur Matete?
Oui, je vous écoute.
Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute maintenant.
Oui, je suis tout d'accord avec nos amis, monsieur Martin Wasiomba de Kindou. Et il a raison, mais il faut arriver à positionner l'agriculture dans un cadre de gouvernance globale. Et d'ailleurs, c'est ce qui revient à l'autre question, entre l'agriculture et les mines, qu'est-ce que vous faites?
Oui.
Mais c'est, oui, agriculture et les mines. Mais pour ma part, moi, les mines, c'est pour un temps. Je vous donne un exemple de ce qu'on avait à la minière de Bakwanga. Nous avions les marchés de diamants. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a une menace contre les marchés des diamants, avec les diamants synthétiques aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je t'ai en train de dire, lorsque nous sommes en face de la complexité, c'est-à-dire de l'abondance, les choses changent d'une manière presque permanente. C'est pour ça qu'il faut doter la population du Congo des capacités qui lui permettent de se préparer, n'est-ce pas, à faire face à tout changement, à tout niveau. Et l'agriculture, par exemple, là, parce que c'est la base hein, de tout. Hein.
On dit que c'est la priorité. On dit que c'est la priorité des priorités.
Exact. Exact. Oui. Mais cette priorité, il faut qu'elle soit encadrée. Par une connaissance idoine. Il faut qu'elle soit encadrée par une sécurité et qui soit une sécurité, une bonne sécurité. Et qu'il faut que cette agriculture-là soit encadrée dans un cadre entrepreneurial bien déterminé, mais que c'est tous ces cadres-là, tous ces écosystèmes-là, cognitifs, c'est sécuritaire, cohésique, voudrais-je dire, ainsi que les systèmes entrepreneuriaux, il faut qu'ils soient en interaction pour permettre à donner une efficacité durable à cette agriculture. C'est là le besoin d'un modèle. Pour que toutes ces politiques publiques que nous avons à faire, il ne faut pas que nous ayons à multiplier des politiques publiques, mais il faut que nous puissions arriver à orienter les politiques publiques dans quatre, n'est-ce pas, dans quatre voies, que je pourrais dire aujourd'hui, dans quatre voies principales, qui sont l'éducation. La sécurité,
la prospérité
et
la coopération.
Exact.
Bien.
Donc, je crois que...
Bien. Par rapport à l'aspect prospérité, qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut aujourd'hui on voit les gouvernements en train de mettre en place un écosystème entrepreneurial pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, etc. Il y a des subventions qui sont données à gauche et à droite. Est-ce qu'on peut dire c'est de cette façon qu'on peut arriver à promouvoir les PME et créer de la richesse et briser le cycle de pauvreté?
Oui, mais merci beaucoup. Moi, je salue ces initiatives. Je crois que ce que nous devons pouvoir arriver à donner à notre pays, lorsque je vois ici l'ANADEC dernièrement, qui se prépare à lancer le 30 juin prochain le programme Debout Jeunes Congolais, n'est-ce pas? Et à travers, il y a aussi un concours sur
le plan d'affaires simplifié.
Oui, exact. Mais ce sont des initiatives louables. Louables, mais que ça ne soit pas comme ce qu'on avait vu l'autre fois avec l'OPEC, l'Office des petites et moyennes entreprises, l'OPEZ, hein, Office des petites et moyennes entreprises du Zaïre. Il faut qu'effectivement, ces initiatives qui sont très louables, il faut qu'on réfléchisse sur les conditions de leur pérennisation. Est-ce que, je prends un exemple, hein, on parlait tout à l'heure de l'agriculture priorité des priorités, n'est-ce pas?
Oui.
Mais rappelez-vous qu'en 1982, on a créé la Banque de Crédit Agricole. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons une banque de crédit agricole qui existe encore? Non. Donc, il faut que nous ayons, lorsque nous faisons ce genre d'initiatives, il faut que nous puissions arriver alors à chaque fois à dire, ok, nous avons ces initiatives, comment nous pourrions avoir une structure qui soit mise en place et qui pérennise d'une manière financière toutes ces entreprises que nous avons? Parce que, lorsque nous n'arrivons pas à mettre aussi, à accompagner, n'est-ce pas, ces initiatives dans un cadre qui arrive à construire l'émergence, un cadre articulé, qui arrive à construire l'émergence, n'est-ce pas? Et nous ne parlons pas de cette émergence politique, hein, je parle ici de l'émergence sur la théorie de la complexité, ça veut dire que l'apparition, n'est-ce pas, des régularités, et quand je parle de régularités sur base, n'est-ce pas, de... créés ou qui sont provoqués par d'autres régularités hétérogènes.
Oui.
Ça veut dire que ce que nous devons pouvoir arriver à créer cette émergence-là, l'émergence doit être créée réfléchie d'abord en disant, ok, petite et moyenne entreprise, il faut que nous puissions arriver. Et déjà, il y a quelque chose de très bien qui avait déjà été fait quand nous avons dans les cursus de formation, les cours d'entrepreneuriat est un cours transversal, déjà au niveau des systèmes éducatifs. Il faut maintenant arriver par des dispositifs interactionnels, arriver à les relier au gouvernement. Comment le gouvernement arrive à financer les universités pour chaque université qui arrive à réfléchir sur un tel projet, tel laboratoire et au niveau des sciences économiques ou au niveau de telle faculté qui réfléchit à ça, comment est-ce qu'on peut arriver à financer ces projets cognitifs, éducatifs et arriver donc à les mettre dans un cercle vertueux pour que ça ne soit pas quelque chose de spontané comme on a vu l'Office des petites et moyennes entreprises du Congo, l'OPEZ, qui a été changé en OPEC à l'arrivée de Moïse Kabila. Voilà un peu pour répondre à cette question-là.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Voilà, nous parlons du modèle de gouvernance socio-économique pour un Congo prospère. On va accueillir à présent Félicien Chibangu depuis Luputa, dans le Haut-Lomami. Robert Adjoku Ejidra, vous êtes là depuis Bunia, en Ituri. On commence avec vous, Monsieur Chibangu, bonjour.
Bonjour mes téléjournalistes, bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent partout au territoire national.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Concernant le thématique, ma préoccupation est une.
Merci de vous éloigner de votre radio parce que là on a un retour, c'est désagréable à l'antenne. Ou bien vous pouvez réduire carrément le volume. Voilà.
Pas de problème, monsieur le journaliste.
D'accord. Merci de vous éloigner de votre radio. Allez-y maintenant.
Je suis l'un des maths.
Oui, allez-y maintenant.
Oui, est-ce que vous pouvez me faire remettre ce qu'il appelle par rapport au sujet du jour?
Bien, donc vous n'êtes pas au courant du sujet. Alors pourquoi avoir appelé alors que vous savez pas de quoi on parle? On vous rappelle après le temps d'accueillir Robert Adjokou et Djidra depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, Radio de la Paix de l'Unité de Cohésion Nationale. Bien. Un sujet très très important. Si on peut consacrer même toute une semaine pour en parler.
Ah oui.
Félicitations à l'invité. Je ne vous apprends rien en disant que l'État fonctionne sur base de principes. Le premier principe, c'est l'éducation. L'éducation dont fait partie la formation et l'information. Que ce soit les dirigeants et la population, nous devons être formés et informés. Oui. Deuxième principe, ce sont les infrastructures, à commencer par la route, l'eau, et l'électricité. Ce sont trois infrastructures de base. Si les trois infrastructures sont développées, le reste se développe automatiquement. J'ai eu la chance de lire quelques ouvrages sur les investissements. J'ai eu à maîtriser cette situation. Troisième principe, c'est l'autosuffisance et la puissance. La nation doit avoir cette vision d'amener la nation, donc tout le monde doit avoir, je veux dire, cette vision d'amener la nation à l'autosuffisance et à la puissance dans tous les secteurs de la vie. Mais c'est les journalistes, ça fait la honte. Comment nous pouvons importer le sucre, le riz, et la farine de maïs, c'est trop ridicule. Donc c'est une honte pour le peuple congolais avec toutes les potentialités dont le bon Dieu nous a dotés. Vraiment, j'ai passé 6 ans et demi à Kinshasa, je n'ai rien compris. Je me suis dit, si c'est comme ça qu'on doit diriger le pays, alors il faut que Jésus revienne vite pour nous prendre. Donc, merci beaucoup pour ce sujet.
Merci,
qu'il plaise
Robert.
À l'invité de monter des stratégies pour voir comment on peut sensibiliser, former et les autorités et la population.
Merci.
Apparemment,
merci.
Actuellement, tous les services se préoccupe seulement de la perception de droits, taxes, redevances et impôts, mais l'aspect formation, information est négligé. Il y a quelques jours, j'ai fait une déclaration incendiaire disant que l'administration est morte. C'est-à-dire que l'administration doit être bien organisée et la politique s'assoit sur l'administration pour que le développement puisse avoir lieu dans
Merci.
Tous les secteurs de la vie.
Merci, monsieur Robert Adjokou.
Voilà un peu ma préoccupation, monsieur. Juste, vraiment, félicitations, soyez bénis.
Merci, monsieur Edidra, depuis l'Ituri. Monsieur Matete Osako, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup, monsieur Robert Adjokou et Edidra. Merci, salut à Bounia là-bas. Moi, je crois que c'est une remarque pertinente. Hein.
Oui. Et
lorsque vous regardez, vous considérez les trois structures.
Monsieur Matete, les questions des auditeurs nous ont pris tellement du temps qu'on ne peut plus continuer cet entretien. Il est déjà 11 heures. Je pense que ce n'est qu'une partie remise. On reviendra là-dessus prochainement. Merci.